autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour nous interroger sur les serpents. Oui, les serpents qui nous font si peur. Entre dégoût, crainte et fascination, pourquoi sont-ils si mal aimés? Et si c'était d'abord par ignorance, par méconnaissance, mais aussi parce que nous avons la tête pleine d'idées fausses, de croyances, de légendes et d'invraisemblables rumeurs qui continuent de circuler allègrement sur le net. Alors comment tordre le cou à tous ces malentendus sur ces animaux rampants, maudits depuis le récit biblique et qui ont pourtant aujourd'hui bien plus à craindre de nous que le contraire? Pourquoi et comment réhabiliter les serpents? Réponse d'une herpétologue tout-terrain passionnée et passionnante, Françoise Sercollet, notre invitée, qui va nous faire partager la biologie étonnante de ces magnifiques créatures bien plus sensibles qu'on ne l'imagine, autour de la question pourquoi tant d'idées fausses sur les serpents. Bienvenue. Bonjour Françoise Sercollet.
Bonjour à tous.
C'est toujours un grand plaisir de vous recevoir pour parler crapaud, salamandre ou serpent. Vous n'avez
Merci.
Pas votre pareil pour nous faire découvrir et approcher sur le terrain ces reptiles et ces amphibiens dont vous êtes spécialiste et qui sont aujourd'hui menacés. Vous êtes Françoise Sercollet, herpétologue, c'est comme ça qu'on dit, et chargée de mission scientifique au Muséum national de médiation scientifique au Muséum national d'histoire naturelle. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et vous venez de publier aux éditions Quae 50 idées fausses sur les serpents. Alors la première de ces idées fausses à laquelle vous tordez le cou sur ces animaux dits à sang froid, c'est précisément que les serpents, Françoise Sercollet, contrairement à ce qu'on imagine, ne sont ni froids ni visqueux.
Oui, effectivement, ils sont ni froids ni visqueux, et c'est vrai que le terme de à sang froid, on l'utilise pas, parce que c'est complètement désuet, et en plus de ça, un serpent, il est dit ectotherme, c'est-à-dire à température variable.
Donc, c'est sa température qui varie.
Voilà, c'est ça la température corporelle, donc qui va varier. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que, par exemple, si on va prendre l'exemple, je suis un serpent.
Oui, voilà. François, je vous regarde, vous n'en avez pas l'air, mais bon d'accord, vous êtes un serpent.
Un petit peu, quelque part.
Femme serpent.
C'est peut-être le cerveau reptilien qui est bien développé
donc
chez moi.
Donc je suis en face d'une femme serpent. Et alors, comment est-ce que vous régulez votre température?
Et alors, donc du coup, donc si je suis un serpent et que cette pièce ici est chauffée à 20 degrés, eh bien mon corps de serpent sera à 20 degrés. Si on chauffe à 25 degrés, mon corps, il sera à 25 degrés. Donc, du coup, la température extérieure va influencer donc toutes les fonctions physiologiques de ces animaux. Ça signifie que quand il fait froid, eh ben, les animaux donc vont hiberner, donc les fonctions physiologiques vont ralentir et on ne va plus les voir donc durant l'été. Et à la sortie donc d'hibernation, eh ben les animaux vont réapparaître, vont se mettre au soleil pour essayer de récupérer donc un maximum de chaleur. Et dès qu'ils vont arriver donc à leur température donc idéale, et ben là ils pourront vaquer à leurs occupations, se reproduire, manger, etc., etc.
On va y venir, à la reproduction, à leur sexualité, parce que là aussi il y a des choses à piocher chez les serpents, qui sait. Mais en tout cas, on se rend compte que ce sont des êtres sensibles, Françoise Sercollet, et que, enfin, sensibles de par leur peau. Qui ont des sens très développés.
Très développés. Ah oui, c'est complètement fou. Déjà, on a l'habitude, enfin les gens disent que le serpent, il tire la langue et que c'est en tirant la langue que cette langue va les piquer. Donc déjà, ça c'est complètement
tout faux.
Ah, complètement faux.
Ils piquent pas et c'est pas en tirant la langue.
Voilà, et encore moins en tirant la langue. Par contre, ils peuvent mordre. Ils ont des dents, mais ils piquent pas. De plus, la langue, c'est un organe qui est tout mou. Et elle sert à quoi, cette langue? Ben, tout simplement...
Cette fameuse langue fourchue des serpents.
Tout à fait, non pas à être médisante de la voisine ou du voisin, mais à capter notamment les odeurs. Donc si je reprends
la
encore...
La langue, ça serait le nez, quoi, un peu.
C'est... Oui,
un peu.
Enfin, il y a le nez où il y a des cellules voilà, qui servent aussi à capter les odeurs, mais c'est particulièrement la langue. Donc, comme cette langue, elle est bifide, et si on reprend encore l'exemple de « je suis un serpent », eh ben je vais sortir ma langue, ok, et le petit brin de droite va se remplir davantage des particules odorantes d'une souris, si celle-ci est à droite, que le petit brin de gauche. Je ramène ma langue dans ma bouche. Là, au niveau du palais, j'ai une cavité qui est reliée directement à un organe qu'on appelle l'organe de Jacobson et qui va analyser tout ce que la langue lui rapporte comme information et comme odeur. Et là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle lui dit ? Bah, va à droite, c'est à droite qu'il y a la souris parce que c'est là où il y a le plus d'odeur de souris.
Donc c'est extraordinaire, cette langue que vous dites bifide, hein, on dit fourchue, enfin cette double langue ou langue qui se dédouble, c'est à la fois un sens qui lui permet de sentir, mais presque de voir aussi. Enfin,
alors, de voir, les serpents, ils voient, hein, ils sont pas aveugles, enfin... pour la plupart, parce qu'il y a des serpents fouisseurs qui ne voient pas très très bien. Mais par contre, il y a des serpents qui ont une vue très 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 importante. Par exemple, si on prend la couleuvre de Montpellier, par exemple, elle se redresse et avec la tête, elle fait comme un gyroscope. Donc, elle cherche notamment ses proies. Donc
elle voit presque autour d'elle, presque à
90 degrés, bien évidemment. Mais elle va chercher, effectivement, à voir un petit peu ce qui se passe autour d'elle.
Et ils ne sont pas sourds non plus, les serpents.
Alors, les serpents ne sont pas sourds, effectivement, même si on voit ce genre d'informations dans les bouquins. Donc, ils ne sont pas sourds. C'est vrai qu'ils n'ont pas d'oreille externe. C'est vrai qu'ils n'ont pas d'oreille moyenne. Par contre, ils ont une oreille interne, donc réduite à la columelle, mais ils vont capter notamment les vibrations donc du sol, de l'air, et tout ça, ça va être transmis donc par le biais du squelette, notamment à l'os carré. Donc
par le biais du squelette, ils ont un squelette aussi, les serpents.
Oui, ce sont des vertébrés. Et donc, du coup, toutes ces informations-là sont captées et sont transmises notamment au cerveau.
Magnifique serpent, que ce soit les couleuvres ou les autres, autour de la question pourquoi tant d'idées fausses sur les serpents, c'est peut-être aussi pour leur différence, leur étrangeté, s'ils nous font si peur, ces animaux rampants qu'on imagine grouillants. En tout cas, c'est la question que vous pose Mathieu Novak du mensuel Science et Avenir.
La peur des serpents, comme celle des araignées par exemple, est-elle vraiment innée ?
Votre réponse, Françoise Cercolin.
Ah, vaste débat scientifique. Est-ce que c'est inné, acquis ?
Voilà, alors, est-ce qu'on est fait ? Est-ce que l'évolution nous a fait de telle sorte qu'on ait peur de ce qui est dangereux pour nous ? Et donc des serpents.
Ça dépend des études. Voilà, il y a des études, par exemple, j'ai en tête une étude californienne d'une anthropologue qui dit qu'effectivement, la peur du serpent est innée et d'après elle, elle a mis donc des serpents face à des macaques captifs qui n'avaient jamais vu de serpents.
Donc des singes.
Et donc du coup, voilà, donc du coup, ces singes en ont eu peur alors qu'ils n'en avaient jamais vu de leur vie. Donc du coup, elle en a déduit que
notre cerveau était câblé pour nous méfier de ces animaux-là.
Tout à fait. Et puis là, j'ai mes collègues du CNRS de Moulis, notamment en France, qui ont fait une autre étude, notamment avec des enfants. Et à qui ils ont proposé des émoticônes, des émoticônes.
Voilà, d'accord.
Donc avec des grandes dents pointues ou des zigzags ou des sourires, etc. Et tout ça sur des serpents. Et qu'est-ce qui en ressort de cette étude, c'est que ce sont surtout les caractères donc les signaux qui sont dits aposématiques, à savoir attention, danger, je suis dangereux, qui font peur.
Donc ce serait plus les dents que les serpents.
Voilà, tout ce qui est pointu, tout ce qui est zigzag, tout ce qui est triangulaire, qui ferait peur, et non pas la forme, notamment du serpent.
Alors pourquoi est-ce qu'on n'aime pas à ce point-là les serpents, en tout cas en Occident, on va dire, peut-être dans notre culture.
Moi je les aime.
Mais je sais que vous les aimez, François Cercolet, vous les photographiez, vos photos sont magnifiques, vous emmenez sur tous les terrains des chercheurs comme des étudiants ou des enfants, les regarder, les toucher, mais enfin vous aimez aussi les crapauds, les salamandres. Mais
moi j'aime la nature, c'est
vous
vrai.
Vous aimez la nature, mais en même temps, ils nous font peur. Alors est-ce que c'est, comment dire, culturel ? Parce que c'est pas le cas partout hein, sur la planète.
Absolument. Je dirais, il y a surtout le fait que notre religion judéo-chrestienne a fait que on n'aime pas les serpents. Que voulez-vous ? Un serpent, c'est quand même lui qui aurait poussé
Ève a mangé la pomme,
a croqué cette fameuse pomme, et que à cause de ça, on a perdu le paradis originel, on a perdu donc l'immortalité. Nous les femmes, on accouche dans la douleur à cause d'un serpent. Comment voulez-vous qu'on puisse aimer une bestiole pareille ?
Mais cette bestiole, elle figure aussi sur le caducée des médecins, par exemple. Alors, et là, elle est, c'est quoi ? Elle apporte la connaissance ?
C'est vrai que chez les Grecs, donc avant la religion judéo-chrétienne, le serpent, il était vénéré. Donc avec Asclépios, qui est Hippocrate, enfin qui est et puis Esculape, etc. C'était, je dirais, un animal qui était positif, qui était là, donc qui était lié notamment à la médecine. Aux remèdes, et notamment, ça vient surtout de la mue.
Parce qu'il change de peau.
Voilà, comme le serpent donc, change de peau, ça symbolise finalement le malade qui recouvre la santé. Donc du coup, ça montre aussi l'immortalité, etc., l'éternelle jeunesse et tout et tout. Et donc du coup, l'animal était vénéré grâce à ce genre de symbolisme.
Mais il n'y a pas que chez les anciens Grecs qu'il était vénéré, on y reviendra, mais en Afrique aussi, au Bénin, dans le Vaudou, il y a le on voit un culte au python royal.
Absolument, surtout dans l'ex-Dahomey, enfin donc le Bénin,
aujourd'hui au Bénin
actuel,
oui.
le serpent était tellement vénéré que pour tout ce qui était échange, notamment avec le Royaume-Uni, il était dit dans les contrats que les Européens avaient interdiction de tuer notamment un serpent. Et que dans la religion, enfin dans ce culte donc du serpent, tuer un serpent pour un Africain, c'était déjà accidentel, parce que ça ne pouvait pas être intentionnel, c'était pas possible. Et c'était, je dirais, puni de mort. Notamment, ça pouvait aller jusqu'à là. Et quand on lit notamment les anciens textes, on s'aperçoit que le culte, donc quelqu'un qui avait tué par accident donc un serpent, on fabriquait une espèce de maison donc avec des branches, des herbes sèches, enfin quelque chose de bien bien sec, et on faisait une petite ouverture, mais vraiment au ras des pâquerettes. Et du coup, la personne qui avait tué le serpent se voyait donc enduit d'huile. On lui mettait une cabasse donc sur la tête, aussi avec de l'huile. On lui mettait un enfant sur les épaules, des oiseaux, un chat ou un chien, et on lui faisait faire le tour donc de la petite maison. Une fois qu'il avait fait donc ce tour, on lui retirait donc le poids de ses épaules et on le mettait donc par terre de façon à ce qu'il devait ramper pour rentrer donc à l'intérieur donc de la petite maison. Et là, on mettait le feu, notamment à la maison. Et du coup, il avait la possibilité de sortir,
mais en rampant.
Donc, voilà, mais en rampant. Donc avec les flammes et tout, puis n'oublions pas quand même qu'il était enduit d'huile, donc ça devait un peu cramer quand même. Et là, il y avait tous les prêtres qui l'attendaient avec des bâtons pour le taper. Et donc dès qu'il sortait, s'il avait réussi à sortir, eh ben il se faisait taper notamment par le peuple, jusqu'à ce qu'il puisse accéder notamment à un endroit où il puisse se mettre dans l'eau, quoi.
Et ce culte, c'est vrai que c'est un culte rendu au serpent, mais en même temps, à travers les lignes et à travers les photos de votre ouvrage sur ces idées fausses sur les serpents, on se rend compte qu'aujourd'hui, ils sont menacés, que nous, on n'a qu'une envie, c'est les tuer. Or, y a des anciens qui savaient bien à quel point ils sont importants, à quel point ils sont aussi importants que tous les autres êtres vivants dans la nature, François Serpellet.
Alors, c'est vrai qu'on est, je dirais, nous faisons aussi partie de la nature. Nous sommes des mammifères, qu'on le veuille ou non. On fait partie de la nature, on fait partie donc d'un écosystème que l'on détruit de plus en plus d'ailleurs, et c'est un peu catastrophique ce qui est en train de se passer. Et c'est vrai qu'il y a énormément de la destruction de la nature et la fragmentation des habitats sont vraiment à la base de la disparition des groupes zoologiques, que ce soit les reptiles, que ce soit les amphibiens, les oiseaux, bref, ça touche à tout. Donc on comprend bien que si on détruit un milieu, on détruit les espèces qui y vivent.
Donc, et pourtant, les idées fausses continuent de circuler hein, sur les serpents. Vous l'avez dit, François Sercollet, ce n'est pas le cas partout dans le monde, où ils sont souvent vénérés comme des divinités. C'est notamment le cas chez les peuples nomades de Mongolie et de Sibérie, comme nous l'expliquait ici même une anthropologue et documentariste. Elle s'appelle Laetitia Merny et elle travaille avec et sur les chamans en Mongolie et en Sibérie. Voilà ce qu'ils pensent des serpents.
C'est la représentation des esprits de l'eau. Parce qu'ils sont très proches de la terre, du milieu souterrain, du milieu aquatique. Et il y a vraiment cette représentation des entités maîtres des eaux sont représentées par des serpents. En fait, en Mongolie, il n'y a pas beaucoup de serpents. Donc c'est vraiment une représentation assez répandue sur toute l'Asie où il y a du bouddhisme tibétain.
Et c'est négatif ou positif, là, le serpent enfin...
Les entités en Mongolie, en fait, ne sont pas connotées négatives ou positives. C'est vraiment les actions des humains envers elles qui induisent leur comportement. Mmh. Voilà. Si elles sont bien traitées, respectées, etc., elles sont positives. S'il y a du manque de respect, s'il y a des souillures par rapport à la nature, si la nature est polluée, les arbres coupés, la terre creusée, etc., à ce moment-là, les esprits de l'eau et de la terre vont se venger.
Ils ne se vengent pas vraiment contre nous, les serpents, hein, François Sercollet. C'est nous qui les exterminons, en tout cas, qui c'est ce qu'on fait.
Ah ben, le coup de pelle, ça c'est sûr que c'est vraiment une catastrophe. Hein, à partir du moment où il y a un serpent dans le coin, ou même un orvet, hein, donc un lézard totalement inoffensif, serpentiforme.
Qui a juste la forme d'un
serpent. Juste la forme, ça peut être le coup de bêche ou le coup de pelle ou le coup de talon. Enfin, de toute façon, l'animal est tué parce que c'est vrai que c'est la méconnaissance qui...
pas le cas ailleurs, en Asie notamment. Enfin là, Laetitia Merly nous le disait, mais... en Asie ou ailleurs, il y a aussi, ça peut aussi être positif, la figure du serpent.
Mais complètement, vous allez en Asie, bon, pour rebondir sur ce que disait l'anthropologue, en Asie notamment, le serpent, il est vénéré. Pourquoi ? Parce qu'il a sauvé la vie de Bouddha. Ah. Donc du coup, il y a deux histoires. Hein. Soit c'est Bouddha qui s'est endormi en plein soleil, soit Bouddha, il méditait tellement qu'il n'a pas vu qu'il pleuvait, il pleuvait, et donc il allait se noyer. Mais d'un côté comme d'un autre, il y a un serpent, ou deux serpents, donc des cobras, qui sont arrivés et qui ont déployé notamment leur capuchon au-dessus de la tête de Bouddha pour lui faire soit un parasol, soit un parapluie. D'accord.
Et ça marche dans les deux sens.
Ça marche dans les deux sens. Et quand Bouddha s'est réveillé ou est sorti de sa torpeur et qu'il a vu que le cobra venait de lui sauver la vie, eh ben, il a posé ses deux doigts donc derrière le capuchon du serpent. Et ce que nous, occidentaux, on appelle les serpents à lunettes, eh ben, c'est pas du tout des serpents à lunettes.
Ils n'ont pas de lunettes, ils ont les deux doigts du Bouddha.
Absolument, ce sont les doigts de Bouddha.
Magnifique.
Donc vous voyez, par rapport à notre serpent du jardin d'Éden, on est carrément aux antipodes.
Et alors, parmi certaines idées reçues, certains pensent que dans le cobra ou dans la tête du cobra, il y aurait des pierres précieuses.
Oui, c'est ça. Et donc du coup, il y en a qui les tuent pour récupérer ça. Or, il n'y a absolument aucune pierre dans les...
Donc pas de lunettes, pas de sonnettes.
Alors, des sonnettes, il y a des serpents à sonnettes, mais c'est surtout notamment en Amérique du Nord, etc. Oui, effectivement, il y a des sonnettes, et la sonnette, c'est une accumulation donc de mus successives. Et c'est ça qui va notamment faire
ce bruit.
Ah, c'est
leur changement
de
peau.
Voilà,
qui dit,
et il laisse un bout à chaque fois au bout de la queue. Et donc, plus le serpent il est vieux, plus il a fait des mus, et plus la sonnette est importante. Même si elle casse.
Même si elle peut casser. Alors, autour de toutes les idées reçues sur les serpents, c'est le titre de votre ouvrage, édition Quoi, illustré par vos magnifiques photos. Vous vous approchez de très près, hein, des serpents, même pas peur.
Oui,
hein.
mais il n'y a pas besoin d'avoir peur. Je dirais, c'est pas des animaux agressifs, c'est pas des animaux qui vont vous cavaler après pour essayer de vous mordre.
Oui, ça encore, c'est faux.
Voilà, donc ça, c'est absolument pas. Bon, après, il faut garder quand même une distance de sécurité. Je dirais, on n'est pas non plus dans un monde de bisounours. Donc, il faut quand même garder une certaine distance de sécurité. Mais à partir du moment où vous n'êtes pas agressive, à partir du moment où vous les laissez tranquilles, bah vous pouvez prendre des photos Voilà. Il faut respecter. Je pense que tout est une question de respect. Et un animal ne mord qu'à partir du moment où il est acculé, à partir du moment où il n'a pas le temps de fuir. Comme il ne peut pas vous balancer un coup de poing ni un coup de pied, il n'en a pas. Donc, qu'est-ce qu'il a à sa disposition ? Eh bien, ses dents. Voilà. Pour ceux qui mordent, et encore, tous les serpents ne mordent pas. Il y en a certains, par exemple, je pense à la couleuvre à collier, qui s'appelle maintenant la couleuvre helvétique. Elle a une façon de se protéger des prédateurs qui est extra. Elle se met sur le dos, comme ça, elle vous montre ses plaques ventrales, elle tombe complètement en catalepsie, elle devient toute molle, elle ouvre la gueule, il y a la langue qui pend, voilà. Et là, elle vide son cloaque. Et ça pue, mais ça pue vraiment, mais au moins ça sent le printemps, ça veut dire qu'enfin on est sur le terrain. Et donc du coup, ça veut dire quoi par rapport au prédateur qui est non charognard ? C'est « Ah, je suis pourrie et morte depuis trop longtemps, tu peux pas me manger ».
Génial, comme tactique de la couleuvre helvétique, c'est ça ?
Voilà, tout à fait.
Alors, parmi certaines idées reçues, on découvre que les serpents, ils aimeraient peut-être la musique et ils dansent en rythme. Où en est-on à ce sujet, François Sercollet ?
On en est que c'est pour les touristes. Donc, ce sont les charmeurs de serpents qui jouent surtout sur le mouvement. Donc, qu'il établit vis-à-vis du serpent.
Le serpent suit probablement le mouvement.
Absolument. Le serpent va suivre le mouvement de la flûte et le mouvement du charmeur, et non pas donc les notes de musique. Et c'est vraiment quelque chose vraiment à bannir. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, les animaux sont issus de la nature. Beaucoup, on leur arrache les crochets, on leur arrache les glandes, enfin, on les opère des glandes, etc. On les garde dans des conditions épouvantables, donc des conditions, mais voilà, éventuellement sans eau, sans rien à manger. Donc, les animaux finissent par mourir. Et donc, c'est pas grave, hop, on va rechercher d'autres dans la nature, etc., etc.
Donc, n'oublions pas que ce sont des animaux sauvages et qu'ils ne dansent pas pour notre plaisir.
Absolument. Et quand vous donnez de l'argent à ce genre de spectacle, eh ben vous favorisez de la maltraitance animale.
Rappelons-le. Alors, est-ce que les serpents hypnotisent leurs proies ? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, François Sercollet ?
Confiance, voilà. C'est tout à fait ça. Ben ça, c'est dû au fait... Alors non, les serpents n'hypnotisent pas leurs proies. C'est surtout dû au fait qu'ils n'ont pas de paupières, les serpents. D'accord ? Donc, ils ont une écaille qui protège notamment l'œil. Ok, et c'est vrai qu'un serpent, il vous fixe et pour pouvoir vous regarder, mais ça a rien à voir avec avec l'hypnose. Et donc pour Kaa, donc Emogli, c'est surtout Walt Disney. Voilà, c'est surtout Walt Disney qui a inventé cette histoire, parce que même Kipling, il a jamais écrit
dans
ça.
Dans le premier livre de la jungle.
Kipling n'a jamais écrit que Kaa hypnotise Mowgli, etc. Ça, c'est vraiment l'imagination fertile et débordante
de
Walt Disney.
Laissons-nous aller à l'imagination autour de la question pourquoi tant d'idées reçues sur les serpents. On va s'arrêter juste pour le plaisir sur ce fameux serpent Kaa du livre de la jungle et Confiance, version de Sushi Lara sur RFI, Trust in Me.
Trust in me, just in me. Close your eyes. Trust in me. You can sleep. I'm able.
Trust in me, le serpent K du livre de la jungle dans la voix hypnotique, c'est sa voix elle qui est hypnotique, de Sushila Raman. Autour de la question pourquoi tant d'idées reçues sur les serpents, 50 idées fausses sur les serpents, c'est le titre de l'ouvrage publié par notre invitée, l'herpétologue Françoise Sercollet, aux éditions Quae, où nous découvrons que le serpent n'hypnotise personne, qu'il n'est ni froid ni visqueux et bien plus sensible qu'on ne le croit, qu'il ne pique pas mais qu'il mord, mais quand il mord, il peut injecter son venin.
Ou pas.
Le venin, sujet de tous les fantasmes, notamment autour de la figure emblématique de la vipère. Alors vous venez de dire
ou pas.
Il peut mordre et ne pas injecter son venin.
Absolument. C'est lui qui choisit. C'est pas quelque chose d'automatique. Donc, le venin, c'est quoi? Déjà, c'est un cocktail de protéines et d'enzymes qui sert notamment à la défense, bien sûr, de l'animal, mais qui sert surtout à tuer, immobiliser le plus rapidement possible la proie, et ça sert à la digestion de celle-ci. Donc, un serpent, il ne va pas paumer son venin pour nous, alors que nous ne sommes pas une proie.
Alors qu'il n'est pas capable, malgré certains bruits qui courent, d'avaler un éléphant ou un être humain tout cru.
Alors, surtout pas les vipères. Alors, les éléphants, non, ça c'est bon pour le petit prince.
C'est ça.
Avec dessine-moi un mouton. Mais sinon, non, les serpents mangeurs d'hommes, ce n'est pas aussi extravagant qu'on pourrait l'imaginer. Il peut y avoir des accidents, oui, il ne faut pas non plus relativiser.
Relativiser, on parlera d'envenimation aussi en Afrique ou ailleurs après.
Les serpents sont potentiellement dangereux, il faut quand même le dire. Maintenant, ils ne sont pas là pour manger les hommes. En plus de ça, on a une position debout, donc c'est pas facile pour eux.
Et encore moins, vous l'avez dit, les vipères, dans nos contrées, en tout cas en France, en Europe, on a terriblement peur des vipères, on parle du nœud du vipère. Là, c'est un maléfice, là, carrément.
Alors, il faut déjà savoir que les vipères, ce sont vraiment des trouillardes. Mais franchement, s'il y a vraiment des animaux en France qui sont trouillards, ce sont vraiment les vipères.
Donc il suffit de faire du bruit et puis...
Faire du bruit sur le sol, je veux dire. Et puis, je pense qu'il y a quand même une éducation à la nature qu'il faut avoir. À savoir que quand vous traversez la rue, vous regardez à gauche, à droite, avant de traverser. Ben, quand vous êtes dans la nature, vous regardez, vous mettez les mains et les pieds. C'est franchement du béaba et les gens n'imaginent pas que le risque zéro n'existe pas. Donc, il faut faire attention, un minimum, quand on ramasse des champignons, quand on ramasse des fraises des bois, ben, on fait attention où on met ses mains. Voilà, ça devient après un automatisme.
C'est une éducation, vous parlez de respect, il y a une éducation et un respect à avoir vis-à-vis de tous ceux qui nous entourent.
Absolument. Et les vipères,
Et les nœuds de vipères.
Alors, les nœuds de vipères, alors déjà, une vipère, elle ne peut pas faire un nœud. Hein. Ce n'est pas possible d'un point de vue anatomique. Ce n'est pas possible. C'est comme si je vous disais que vous alliez faire un nœud avec votre squelette à vous.
On rappelle qu'ils sont un squelette, hein, ce ne sont pas des invertébrés.
Tout à fait, donc c'est pas possible. Alors qu'est-ce que c'est que ces tas de serpents? Eh bien, c'est lié à la reproduction. C'est-à-dire qu'il y a une femelle, et comme c'est une femelle qui est prête notamment pour la reproduction, donc elle a émis plein de phéromones dans le coin en disant « Je suis bonne, je peux faire des bébés cette année, ça va être nickel ». Donc du coup, tous les mâles sont bourrés de testostérone parce que c'est la fin de l'hiver, on est au printemps, donc tout le monde veut partager son patrimoine génétique.
Oui, on dit comme ça.
Voilà, et donc du coup, ils montent sur la femelle, ils se montent dessus et ils forment des tas. Voilà, où vous avez une femelle, donc, pour plusieurs mâles.
C'est un gangbang de serpents, quoi, en gros.
C'est un peu ça, voilà.
Mais c'est ni plus ni moins que ça.
C'est lié à la reproduction.
On va revenir sur la reproduction et la sexualité des serpents, parce qu'on n'a pas fini, mais arrêtons-nous sur quelques idées fausses que vous citez dans votre livre. Les serpents ne tombent pas des arbres. Hein.
Non, pourquoi ils tomberaient des arbres? Ils vont se faire mal. Donc non, je dirais, si un serpent il tombe d'un arbre, c'est qu'il a eu un accident, c'est qu'il s'est loupé quelque part, c'est qu'il a essayé de choper une proie et que la proie était plus forte et l'a fait tomber, ou alors il s'y est mal pris et puis il tombe, mais c'est plus accidentel que volontaire.
Et personne ne lance des serpents avec un hélicoptère, les lâchers de serpents, ça fait partie des idées fausses ou des rumeurs.
Tous les ans, on y a droit à cette rumeur qui est donc de dire que les écologistes donc balancent des caisses de vipères pour repeupler certaines régions de France. Voilà. Et donc quand on réfléchit un tout petit peu, eh ben on se dit que quand on est herpétologue, on n'ira pas balancer des serpents du haut d'un hélicoptère sans penser à l'atterrissage de l'animal et dans quel état il va atterrir.
C'est ça.
Surtout si on veut repeupler. Donc la bestiole, elle va se retrouver écrabouillée, blessée à l'atterrissage.
Donc il n'y a rien à craindre.
Donc déjà... C'est quelque chose de faux, et c'est ce que l'on appelle un faux souvenir, notamment en psychologie. Mm-hmm. J'ai même un collègue qu'on aurait vu piloter l'hélicoptère. Donc moi j'ai entendu des trucs mais complètement fous, où on me racontait avoir trouvé une caisse de vipères dans un arbre, la caisse complètement explosée, les vipères mortes qui dégoulinaient le long du tronc, etc.
Ouais, c'est des espèces de cauchemars fantasmatiques mais qui n'ont
absolument
aucune réalité.
Ça s'appelle des faux souvenirs. Donc les gens sont absolument persuadés d'avoir vécu ce genre de choses. Or c'est un problème cérébral, donc on imagine...
C'est peut-être serpents, nos neurones à l'intérieur.
On imagine, on prend des brides d'un peu partout, on fait sa propre histoire.
Pour alimenter
après,
nos peurs.
On y croit, voilà.
Autour de la
croit.
Question, justement, pourquoi tant d'idées fausses et d'idées reçues sur les serpents, animaux fascinants que vous nous faites découvrir, François Cercollet, dans cet ouvrage d'édition Quae. Ils sont fascinants, vous l'avez dit aussi, par leur sexualité et leur reproduction. À ce sujet, nouvelle question pour vous, même si votre téléphone sonne, vous n'allez pas y répondre. Nouvelle question pour vous, soulevée par Ludovic Dickel. Il est chercheur et spécialiste des céphalopodes, des calmars et des sèches dont il étudie la mémoire carrément. Il y a une question pour vous, non pas sur la mémoire des sèches, mais sur les mamans des serpents.
Est-ce que les mamans serpents s'occupent de leurs œufs ou de leurs petits ? Et est-ce que le sexe des serpents est déterminé à la fécondation ? Ou est-ce qu'il dépend de l'éclosion, de l'incubation ?
Réponse, Françoise Cercollet, sur à la fois est-ce que les mamans s'occupent des œufs et est-ce que le sexe est déterminé ? Quand est-ce qu'il est déterminé, le sexe des serpents, déjà ?
Alors, il est surtout déterminé de façon génétique. C'est vrai que chez les reptiles, notamment chez les crocodiles, chez les tortues, chez pas mal de lézards, la température va influencer donc le sexe de l'embryon. Et il est vrai aussi que les mamans serpents s'occupent aussi de leurs œufs. Par exemple, si vous prenez les pitons, les femelles vont pondre des œufs, vont s'enrouler autour donc de la ponte et vont augmenter donc leur température corporelle pour augmenter la température donc des œufs afin que les embryons puissent se développer plus rapidement.
Ah oui, donc elles prennent soin de leurs œufs véritablement.
Leurs œufs. Hein. Et vous avez notamment un serpent qui est bien connu, qui est le cobra royal, qui lui va faire un nid. Les parents vont s'occuper notamment des œufs, etc. Vont monter la garde.
Les parents.
Ah oui, le mâle aussi, il reste dans le coin, etc. Mm-hmm. Et par contre, au moment de l'éclosion, tout le monde s'en va parce que comme ils sont ophiophages, donc ils mangent d'autres serpents. Donc voilà, généralement.
Oui. On s'en occupe avant qu'ils sortent vraiment de l'œuf, hein, c'est ça vaut mieux. Hein.
Et c'est pareil, même en Afrique, il y a un python notamment qui couve ses œufs, pareil. Et généralement, quand les œufs ont incubé et que les petits sont sortis, point barre, tout le monde se débrouille, etc. etc. Sauf notamment cette espèce africaine qui va garder notamment ses petits jusqu'à ce que le vitellus, donc ce qui sert de réserve énergétique donc dans l'œuf, mais également après à la suite de l'éclosion, soit complètement résorbé. C'est complètement fou, quoi.
Ah oui, ils attendent vraiment qu'ils soient capables de se débrouiller tout seuls, quoi.
Absolument. Mais je crois qu'au niveau des œufs, ce qui, moi, m'interpelle le plus et me fascine le plus, c'est qu'on a découvert une communication des embryons entre eux, donc dans une ponte. C'est-à-dire que les œufs sont collés les uns avec les autres, d'accord ? Et donc, les embryons, ben, comme ils sont collés, ils peuvent communiquer entre eux. Et ils vont communiquer comment ? En utilisant les battements de leur cœur. C'est-à-dire que soit ils vont accélérer donc les battements de leur cœur, donc du coup ça accélère leur croissance, soit ils vont diminuer donc les battements de leur cœur pour ralentir leur croissance afin que tous les bébés sortent en même temps. Comme ça, s'il y a un prédateur dans le coin, il ne peut pas manger tout le monde.
Donc, ils se synchronisent par les battements de leur cœur dans leur coquille, enfin, dans leurs œufs.
Tout à fait. Vous vous rendez compte qu'on est en train de parler d'embryon de serpent dans l'œuf? C'est fabuleux.
Ah oui, c'est fabuleux. Non, on comprend que vous soyez fasciné. Quel est le serpent le plus, pour vous, le plus fascinant? Peut-être pas le plus impressionnant.
Je crois qu'ils le sont tous par certains côtés, quoi. On parlait tout à l'heure de la couleuvre helvétique qui fait la mort. La morte, moi, je trouve ça extraordinaire. Il y a un autre serpent aussi qui est extra. C'est un serpent américain, nord-américain, que l'on appelle Tamnophis sirtalis. Et donc, cette bête-là, elle est extraordinaire. Parce que déjà, tous les individus vont hiberner ensemble. Et donc, à la sortie d'hibernation, vous avez donc d'abord les mâles qui sortent en premier, ça c'est relativement classique, et après donc vous avez des femelles qui commencent à sortir. Donc, dès qu'il y a une femelle dans le coin, hop, il y a plein de mâles qui se mettent sur elle, etc., comme on parlait tout à l'heure. Et pendant ce temps-là, il y a d'autres mâles qui sont restés donc plus longtemps que les autres en hibernation. Et ceux-là vont sortir. Ouais. Et là, ils vont émettre des phéromones de femelles. C'est-à-dire qu'ils vont se travestir en femelles.
D'accord.
Résultat, les mâles, ils
vont être attirés.
Voilà. Oui. Ils viennent vers le faux mâle, vers le travesti. Ils se frottent à lui, ils le lèchent, etc. Donc, ils le réchauffent. D'accord. Et puis, pendant ce temps-là, ils ont abandonné la vraie femelle.
Et dans ce cas-là, c'est mal réchauffé, travesti,
c'est mal réchauffé, ils sont restés plus longtemps. Et donc, du coup, ils se sont moins fatigués, ils ne se sont pas fait manger non plus par les prédateurs, etc. etc. Et après, ils vont tenter aussi leur chance auprès de la femelle. Et une fois que la femelle sera fécondée, celle-ci va fabriquer une espèce de bouchon de mucus qui va lui fermer le cloaque, plein de molécules odorantes qui disent « Ah, ça y est, c'est
terminé,
trop tard !»
Terminé, c'est bon.
Terminé,
plus
je peux aller manger.
Plus personne ne rentre, plus personne ne vient faire un nœud autour de moi. Autour de la question des serpents, allez, on va s'arrêter sur l'image du python royal dont vous nous avez parlé, sur la danse du python vénérable et sacré sur le continent africain. C'est le collectif sud-africain Umoja, ça veut dire ensemble, dans l'album The Spirit of Togetherness, où l'on retrouve entre autres Hugues Masekela, Johnny Clegg ou Don Laka, qui interprète Wenda Snake Song sur RFI.
Vous écoutez RFI. Autour de la question, Caroline Lachowski.
Mashona bo, mashona.
Wanda Snake Song, la danse du python sur les bonnes ondes de RFI. C'est pour vous, François Sercollet. Autour
Merci.
De la question des serpents, et après avoir tordu le cou à bon nombre d'idées fausses liées aux rumeurs et à la méconnaissance, il ne faut pas pour autant, vous l'avez dit également, évacuer le danger qu'ils représentent, notamment sur le continent africain, où les antivenins ne sont pas toujours accessibles à la population. L'envenimation, un fléau négligé, c'est l'éclairage de Jean-Philippe Chipot, que vous connaissez bien.
Oui.
François Sercollet, directeur de recherche à l'IRD, très impliqué dans la prise en charge des envenimations au Bénin, à Cotonou. Il a dirigé le bureau IRD où nous l'avions joint par téléphone.
Bon, il faut savoir que environ 300 000 patients envenimés se présentent dans les centres de santé chaque année en Afrique subsaharienne, avec un nombre de décès enregistrés qui est de l'ordre de 7500 par an, avec à peu près 10 000, en plus de ces 7500 décès, 10 000 patients qui ont des complications avec des séquelles définitives, hein, des amputations, des insuffisances rénales, etc. Alors moi, je travaille essentiellement sur la prise en charge. La prise en charge pose un certain nombre de problèmes. Il existe effectivement ce qu'on appelait autrefois des sérums antivenimeux, que nous appelons maintenant des antivenins. Et donc ces produits-là existent, ils sont très efficaces, ils sont maintenant très bien tolérés, mais ils sont extrêmement chers et peu accessibles, voire pas accessibles, aux victimes des morsures de serpent, qui sont pour l'immense majorité, 97%, des cas qui sont des paysans qui sont mordus dans des zones rurales éloignées hein, au cours des travaux agricoles. Mmh. Et quand ils arrivent au centre de santé, eh bien, c'est un centre de santé qui est périphérique, dépourvu de beaucoup de choses, et en particulier d'antivenin. Donc le travail que je mène est d'une part évaluer les besoins, savoir de combien d'antivenins on a besoin, où il faut les mettre à disposition, où est-ce qu'il y a le plus grand nombre de morsures, quels sont les différents niveaux de gravité de façon à ce qu'on puisse adapter la réponse à ces niveaux de gravité. Et puis, évidemment, vérifier que ces antivenins répondent bien aux normes qui correspondent bien aux besoins. Et ensuite, trouver les moyens de les faire parvenir et de les mettre à la disposition des populations rurales.
Est-ce qu'on fait des progrès dans ce sens-là? Est-ce que le venin tue moins?
On a avancé sur quelques points. Par exemple, au Burkina Faso actuellement, plus de 95% du prix de l'antivenin est payé par le gouvernement. Donc le patient n'a plus à payer que 5% du prix initial de l'antivenin. Au Togo, c'est un petit peu moins, c'est 65% qui est pris par le gouvernement. Mais déjà, c'est un effort qui est fait. Et nous progressons comme ça. La Côte d'Ivoire est en train de mettre en place une formule qui permettra d'assurer la gratuité de l'antivenin. Le Cameroun va faire la même chose. Donc vous voyez, on avance, on progresse.
On avance, on progresse. En Afrique, c'est plus une question de disponibilité hein, de ces antivenins, mais aussi d'information auprès de la population et du personnel de santé. C'est un vrai fléau négligé. Alors, en France, on n'est pas dans la même position, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, François Sercollet, face à
un
serpent ?
C'est vrai qu'on n'est pas du tout dans la même position, parce qu'il y a très 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 peu de morts. Mais quand je dis très très peu, ça fait déjà plusieurs années qu'à ma connaissance, il n'y a pas une mort en France. Donc il y a plus de morts liées aux voitures, aux chiens, aux vaches, parce qu'il y a plein de gens qui se font encorner tous les ans.
Il y a plus de morts liées aux vaches qu'aux serpents, oui,
qu'avec
c'est pas de mal
serpents.
De le rappeler. Mmh.
Et alors, c'est vrai qu'on estime à 0,3 hein, le nombre de morts par an. Alors c'est pour vous dire que les guêpes et les abeilles font beaucoup plus de dégâts que les serpents en France.
Oui, donc relativisons de ce côté-ci de la
Absolument.
Planète.
Absolument. Et après, y a plein de choses à éviter. Déjà, on ne court pas, on s'affole pas, on saute pas dans tous les sens, parce que plus vous allez vous énerver, et plus la circulation sanguine s'accélère. Donc, s'il y a du venin, propagation du venin dans l'organisme. Donc, on reste calme, on boit pas d'alcool, on ne boit pas d'excitant, on ne boit pas d'aspirine non plus. Après, on fait pas pipi dessus. Parce que ça, il y a des gens qui pensent que de faire pipi dessus, ça va nettoyer, et voilà. Avoir une action contre le venin, absolument pas.
Le garrot ?
Alors, surtout pas de garrot, ça c'est vraiment la dernière chose à faire, donc serrer très très fort au-dessus de la morsure, donc avec un lien. On n'insiste pas non plus, parce qu'on ne coupe pas pour essayer de faire sortir le venin. Idem, on ne ramène pas donc la morsure, la plaie donc, à sa bouche pour aspirer le venin. Bon, déjà parce que vous n'aspirerez rien du tout s'il y a du venin, ça c'est la première chose. Mais en plus de ça, les serpents, ça se lave pas les dents tous les jours. Donc, dans une bouche de serpent, il y a plein de bactéries. Et les serpents sont des porteurs de salmonelle. Donc, du coup, imaginez un peu ce que ça peut faire. Donc, pas d'incision, pas d'aspiration, pas de garrot, on ne boit pas d'alcool, on ne fait pas pipi dessus, etc.
On reste calme et on va se faire et la première une injection
chose,
de
voilà, la première chose à faire, c'est d'appeler les secours. Donc, soit vous appelez les secours, soit vous vous rendez donc, à l'hôpital le plus proche, sans passer par la case pharmacie ou médecin, hein, direct à l'hôpital, parce que si on vous fait un antivenin, de toute façon, ça sera par perfusion. Donc, c'est hôpital. Après, ce que vous pouvez faire, c'est retirer tout ce qui est bague, si c'est des morsures à la main, tout ce qui, est, tout ce qui peut servir de garrot involontaire, comme voilà, les bracelets, etc. Donc, ça, vous pouvez retirer. Vous pouvez également immobiliser le membre mordu et désinfecter donc, la plaie si vous avez du savon de Marseille voilà, ou un antiseptique quelconque. Mais vraiment, la première chose, c'est vraiment d'alerter et d'aller éventuellement à l'hôpital.
Parce que dans ces venins, on n'a pas tellement le temps d'en parler, mais dans ces venins, oui.
Et il y a quelque chose de très important,
allez-y.
C'est que ce n'est pas la peine non plus de paniquer parce que vous pouvez mettre au moins 3 heures pour aller jusqu'à l'hôpital.
D'accord.
Donc, on reste
tranquille,
calme
on reste
et en plus, bien se mettre dans la tête qu'une morsure n'est pas suivie obligatoirement d'une envenimation. Le serpent, il peut mordre et ne rien injecter du tout. Donc, ce sont des morsures blanches.
Donc, ça existe aussi. Un petit mot peut-être quand même sur ce venin qui, quand il ne nous n'est pas, quand c'est pas nous qui sommes en cause, qui se révèle aussi être une source aujourd'hui pour le futur, pour des traitements, mais pas seulement, parce que c'est incroyable ce qui est contenu dans le venin.
Mais tout à fait. Mais de toute façon, c'est connu depuis pas mal de temps. Je dirais, vous regardez, par exemple, en homéopathie, vous avez, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'Achésis mutus, je crois. Bon, il soigne tout. Bon, ça, c'est des granules, ça soigne tout, mais c'est vraiment connu depuis pas mal d'années. Et maintenant, toutes les recherches tendent à utiliser aussi le venin comme un modèle donc, scientifique. Et c'est utilisé pour le diabète, etc. Donc, c'est vraiment...
Il reste encore beaucoup de choses à rechercher et à découvrir autour des serpents.
Absolument, et autour des toxines qu'ils contiennent.
Merci beaucoup d'être venu vous arrêter dans notre studio pour nous faire partager justement les idées vraies hein, qu'il faut avoir sur ces serpents à protéger bien sûr et qui sont menacés, hein, qui sont plus en danger que nous pour sortir des rumeurs et des idées fausses. Je rappelle le titre de votre ouvrage, 50 idées fausses sur les serpents, paru aux éditions Quaé, Françoise Sercollet. Et on pourrait aussi citer peut-être l'exposition Poison au Palais de la Découverte à Paris dans lequel on peut découvrir de magnifiques spécimens derrière des vitres, rassurez-vous, et fêter aussi la naissance de 30 serpenteaux, ceux de la vipère du Gabon, qui se plaît apparemment au Palais des Découvertes. Ça va vous faire plaisir, ça.
Ah oui, mais tout à fait. Ben, c'est la vie, hein, la naissance.
Autour de la question sur Internet, www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditeurs et internautes, au cœur des réseaux informatiques, mais pas seulement, autour de la question pourquoi tant de réseaux et pourquoi il vaut mieux être outillé qu'instrumentalisé par tous ces réseaux, avec Hugo Violas à la réalisation et Juliette Brault en coulisses. Merci de votre fidélité et de votre interactivité. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à l'écoute de RFI. Le prochain journal, c'est dans une petite minute.